Et ce matin, on termine notre quatrième saison dans Ésaïe. Et on va voir la bonté de Dieu. Bien au-delà des dons en argent et de toutes ces choses-là, le don de Jésus-Christ, littéralement. Alors, le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique. On est dans l'Ancien Testament. Ce passage-là a été donné par Dieu à son prophète puis pour son peuple. Il y a environ 2700 ans, soit 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, d'accord? Donc, 2700 ans avant notre ère, avant aujourd'hui. Et ce passage-là est un passage qui procure une joie infinie aux chrétiens depuis 2000 ans. C'est un passage qui est intimidant pour moi parce que c'est un des passages les plus touchants, les plus émouvants, les plus clairs, les plus limpides sur l'Évangile, sur ce que Jésus-Christ allait venir faire 700 ans plus tard, de tout l'Ancien Testament, j'oserais dire même de toute la Bible. Alors, c'est tout un mandat pour moi de vous conduire dans ce passage-là, mais en même temps, c'est un passage qui apporte la joie à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui renouvelle la joie de ceux qui le connaissent. Parce que ça nous ramène vraiment au cœur de la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est vraiment une grâce pour moi de vous conduire dans ce passage-là. On va aller dans un mot de prière. Comme j'ai fait depuis deux semaines, c'est moi qui vais vous lire le passage dans Ésaïe. Ensuite, on retrouve nos bonnes habitudes, mais je veux commenter un peu le texte alors que je le lis. On va aller dans un mot de prière. Notre Dieu, tu es vivant. Comment douter, Seigneur, de ta bonté, de ton existence, de ta grâce, alors que tu as donné ton Fils qui est venu mourir sur la croix pour des êtres faibles et pécheurs comme nous, Seigneur. Comment donc douter de ta bonté quand on voit la générosité de ton peuple pour faire avancer des projets de l'Église? Comment douter de ta bonté quand 11, 12 personnes se préparent à se faire baptiser dans les prochaines semaines, Seigneur? Tu es vivant. Je te prie, Père, de venir parler à nos cœurs ce matin. Viens saisir nos cœurs par ta parole, Seigneur. Ne permets pas que nous quittions, Seigneur, ce service ce matin sans avoir été bouleversés par ton esprit, sans que ton esprit soit venu appliquer ta parole à notre vie personnelle, qui que nous soyons, où que nous soyons dans ce cheminement avec toi, viens appliquer, Seigneur, ces mots à notre âme, Seigneur. Viens renouveler notre joie ou viens nous donner la joie du salut, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. 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 Ésaïe 53.1, juste avant d'en faire la lecture, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Est-ce que vous savez c'est quoi un joueur substitut? Vous connaissez tous ça? Dans une équipe de sport, il y a un joueur qui se blesse ou qui est absent, puis il y a un joueur substitut qui va prendre sa place pour le match. Dans ce passage-là, on est confronté au fait où on découvre la bonne nouvelle qu'il y a un joueur substitut pour toi puis moi. Ce joueur-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le joueur substitut nécessaire pour tous les êtres humains parce qu'aucun d'entre nous n'est capable de compléter ou de gagner cette partie-là de la justice devant Dieu. Ce n'est pas difficile d'imaginer un Dieu qui est juste. Mais découvrir un Dieu qui est gracieux, ça, c'est un miracle extraordinaire. Et ce qu'on découvre dans ce passage-là d'Ésaïe 53, c'est que Christ est mon substitut, si je le veux bien, si je veux croire en lui. Et Ésaïe 53, verset 1, commence avec ceci. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Parce que le miracle de cette substitution de Christ pour notre salut est, à mon avis, le plus grand miracle de la Bible. Beaucoup plus que tous les miracles où Jésus marche sur les eaux et ressuscite des morts. Celle de voir un Dieu parfait qui se donne pour toi et moi, ça c'est le plus grand miracle de la Bible. Alors je vous lis le passage. Ésaïe 53, en fait je commence un petit peu plus tôt. Ésaïe 52, les trois derniers versets je crois. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Maintenant, nous, on sait qu'il a été élevé sur la croix, ça s'est produit 700 ans plus tard, et qu'il a été élevé au ciel après sa résurrection. Je pense que les deux sont ici dans l'Esprit de Dieu. dans la pensée de Dieu. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des hommes. C'est ça que produisaient les tortures que Christ a subies avant d'être pendu au bois. Il était littéralement défiguré. C'était littéralement un objet d'effroi. Littéralement, pour les hommes qui étaient là, naturellement, ils pouvaient penser que Dieu avait rejeté Christ parce qu'il était pendu au bois avec les malfaiteurs, avec les criminels. Et donc, si tu ne comprends pas ce qui se passe, si tu ne connais pas ces textes-là, si tu ne les comprends pas, tu regardes Jésus de Nazareth crucifié et tu dis « Cet homme-là est maudit de Dieu parce que Dieu ne l'a pas protégé. » De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples, les nations de la terre, un sujet de joie à celui qui comprend l'Évangile. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, la délivrance? Le bras de l'Éternel, c'est toujours soit le bras de la justice, soit le bras de la délivrance. C'est le bras qui tient l'épée, celui qui vient délivrer. Ce bras-là, c'est Christ qui va sur la croix, qui vient exercer la justice de Dieu et le salut pour les hommes. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il est rentré monté sur une mule à Jérusalem et c'était le fils d'un charpentier. Il venait d'une petite ville banale, Bethléem. Personne ne pouvait se douter que c'était le sauveur des Juifs et des hommes qui arrivait méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous allez voir dans le passage l'idée de pécher contre Dieu, avoir manqué envers Dieu, et l'idée des souffrances qu'entraîne dans nos vies, dans notre société, le péché lui-même, viennent se marier ensemble. Donc, quand on pèche contre Dieu, on est coupable, puis on est victime. Victime de tous les effets qui viennent avec nos péchés dans nos vies. Et vous pouvez penser à des stupidités que vous avez faites, des choses qui étaient immorales dans vos vies, qui ont entraîné de la souffrance dans vos propres vies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alors évidemment, c'est l'image de l'agneau qui est sacrifié pour les péchés. Les Juifs étaient très familiers avec ça. Christ est cet agneau glorieux qui a été sacrifié pour nous. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. C'est intéressant, hein? Quand on pense à Christ, l'angoisse qu'il a vécue au jardin de Gethsémané, il a été enlevé par l'angoisse lorsqu'il s'est écrié sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ce n'est pas seulement la torture des hommes qui l'ont tué. C'est le fait de prendre sur lui nos péchés et d'être aux yeux de Dieu ce qu'il y avait de plus ignoble pour un instant, parce qu'il a été fait péché pour nous. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Voyez apparaître l'idée de substitution. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu en lui de fraude dans sa bouche. Ceux qui l'ont condamné disaient, mais pourquoi je suis obligé de condamner ce gars-là? Pilate lui-même disait, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui? Donnez-moi un motif pour le condamner. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, une descendance, et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et l'Église de Jésus-Christ se multiplie par millions depuis maintenant des siècles, et jusqu'à son retour, ça va être ainsi, quelles que soient les circonstances. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quel passage extraordinaire! Quel passage extraordinaire! Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est le miracle le plus merveilleux de la Bible. Sois émerveillé. Sois émerveillé. Ce matin, je priais pour chacun d'entre vous. Je me promenais dans la salle, puis je priais pour vous, où que tu sois assis, quel que soit le service auquel tu assistes. Et ma prière était celle-ci, que l'Évangile de Jésus-Christ vienne émerveiller ton âme. Et si tu ne connais pas personnellement Jésus-Christ, que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu puisses le connaître. Et si tu le connais, que ta joie dans l'Évangile soit renouvelée ce matin par sa puissance. Le miracle de la grâce. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Voyez-vous, un Dieu juste n'a rien de surprenant. Je comprends qu'aujourd'hui, on veut imaginer un Dieu très, très bonbon, grand-papa, tu sais, viens ici, tout est beau. Mais en même temps, ça va lorsqu'on pense à ce qu'on aimerait qu'il nous donne à nous. Mais quand on regarde la société, on est constamment en train de juger. Notre société est en train de se diviser. Là. Il y a les bons, les méchants, les sages, les égoïstes. On est en plein là-dedans, là, une grosse, grosse crise de tension, là. Constamment, on est en train de juger. Il n'y a pas 2 ans, on avait des manifestations partout sur la terre avec Black Lives Matter. On est constamment en train de juger le bien et le mal. Concevoir un Dieu juste qui va juger et punir le mal, ce n'est pas difficile à imaginer. Si on y pense sérieusement, qui voudrait d'un Dieu qui n'intervienne jamais et ne juge jamais le mal? On vit des crises sociales, on prie pour des petits-enfants qui sont enlevés. Qui voudrait d'un Dieu qui n'intervient jamais? Ce n'est pas difficile à imaginer un Dieu juste. C'est vrai, lorsque je pense à moi, je préfère avoir un bon Dieu bonbon, tu sais, qui va dire, « Ben non, c'est pas grave, si tu as tué quelqu'un, rentre à la maison, tu fais partie de la famille, tout va bien. » Mais sérieusement, ce n'est pas difficile à imaginer. Ça va de soi dans un sens. Nos cœurs ont été créés pour discerner des choses et pour juger des choses. Puis c'est nécessaire pour avoir une société qui tend vers une certaine même justice sociale. Un Dieu qui juge et punit le mal, ça va de soi. Mais l'idée d'un Dieu substitut, un Dieu qui vient et qui prend ta place, qui vient finir la partie que je ne pourrai jamais compléter, que je ne pourrai jamais gagner, parce que je mérite sa justice. Et donc, un Dieu qui va pourvoir un moyen où, tout en honorant sa justice, il va pouvoir offrir un substitut afin que je reçoive non pas la justice, mais la grâce, que je sois gracié. Ça, c'est surprenant. Ça, c'est un « wow » incroyable. Et il y a plein de gens à qui on annonce l'Évangile qui disent « ça serait vraiment cool, mais j'ai bien de la difficulté à y croire, fait que c'est pas pour moi ». Ils ne sont pas capables de concevoir un Dieu qui aurait envoyé son Fils, un Fils qui se serait donné lui-même, Dieu le Fils, qui s'offre lui-même. Ils ne sont pas capables d'imaginer qu'eux-mêmes seraient prêts à donner leur enfant ou qu'eux-mêmes se donneraient. Et donc, ils refusent ça. Mais Isaïe dit, « Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? La grâce pour des impies. » Je sais que le mot « impie », c'est un vieux mot qu'on n'utilise pas vraiment dans notre culture, puis pourtant, c'est un mot qui est, je trouve, fort. Il est comme détestable, tu sais, un impie. Un impie, c'est quelqu'un qui méprise Dieu. C'est quelqu'un qui crache à la face de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas de piété. La piété, c'est une révérence envers Dieu que tu vis à tous les jours, à tout moment. Tu sais, tu t'assois pour manger, puis tu dis, c'est pas vrai que c'est juste moi qui ai fait ça. Tu m'as donné la santé, tu m'as donné un emploi, tu m'as donné un pays où tableau, on peut acheter de la nourriture, puis il y a de la sécurité. Fait que je m'assois, puis je dis merci Seigneur pour la nourriture. Piété, c'est tout, c'est simple comme ça. Un impie, c'est un ingrat. Un Dieu qui fait grâce à des impies, parce que nous sommes tous ingrats. Dans Romains, Dans la lettre aux Romains, au chapitre 4, verset 5, on lit ceci. « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Celui qui déclare juste l'impie. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est extraordinaire. Écoute, il y a quelqu'un qui passe dans la rue un soir, tu viens de quitter ta voiture, tu es en train de marcher. Nous, on vit dans des condos, fait que souvent, on stationne sur la rue. Je suis en train de marcher, puis je m'en vais vers mon condo. Puis là, je vois un jeune qui passe, qui sort son trousseau de clés, puis qui s'amuse à frotter tous les chars. Un après l'autre. Je reviens le voir. Est-ce que je veux la justice? Ou je dis, pas trop, man. Je vais payer pour. On s'entend qu'il y a quelqu'un qui va payer pour, là. Je peux pas, c'est pas le genre d'affaire où je peux dire, regarde, il n'y a pas de mal. Tu sais, des fois, quelqu'un vient te voir, un frère dans l'église vient te voir et dit, écoute, je veux te demander pardon, j'ai fait ça. Puis, tu sais, écoute, si ça te fait du bien, je te pardonne, mais des fois, on ne prend même pas offense. Des fois, c'est vraiment juste la personne qui a vécu ça en elle-même, tu sais. Mais je vous assure que le bonhomme qui vient avec sa clé, puis je le surprends. Il y a quelqu'un qui va payer pour ça. Ben, faire grâce, ça coûte quelque chose. Fait qu'il y a quelqu'un qui va payer pour celui ou c'est moi. Il y a quelqu'un qui va payer pour ça. Un Dieu qui dit, je vais payer pour tous les crachats que tu m'as fait. Je vais payer pour tout le mal que tu as fait. Je vais demeurer juste, mais je vais pourvoir un substitut. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Amen? Ça, c'est un miracle extraordinaire. Et c'est tellement libérateur quand tu acceptes ce miracle-là, quand tu commences à croire dans ce miracle-là, ton cœur est libéré. Ton cœur est délivré littéralement. Ésaïe 53, 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je l'ai dit tantôt pendant la lecture, quand les Juifs regardaient Christ sur la croix, ils voyaient quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. C'est inconcevable dans leur esprit que l'élu de Dieu soit pendu avec les criminels, les malfaiteurs. C'est un des éléments qui bloque, qui empêche un ami musulman d'accepter l'Évangile. Je parle souvent des musulmans parce que j'ai des conversations avec eux, puis j'aime leur côté raisonnable quand on discute. Ils essaient d'approcher beaucoup la foi avec la raison. Puis ils arrivent là, puis ils disent, « Tu me dis que Isha, Jésus, a été crucifié, c'est complètement déraisonnable. » Donc, eux autres, ils se disent, « Non, 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 c'est pas lui qui est notre substitut. Un des disciples s'est fait crucifier à sa place. Il y a eu un substitut à sa place parce que Dieu ne pouvait pas faire ça à son serviteur. » Et c'est ça le miracle de l'Évangile. C'est que Dieu a fait ça à son serviteur. Et Ésaïe nous dit clairement, il s'est offert volontairement, c'est lui qui a donné sa vie. Il s'est porté volontaire comme substitut, ayant été emporté par l'angoisse et le châtiment. Le tourment de savoir que lui, le Saint, serait fait péché, et le châtiment de prendre sur lui nos péchés. Il est devenu ton substitut et le mien. C'est ça l'Évangile, 700 ans avant Jésus-Christ. Les Écritures sont extraordinaires. Je parlais avec une petite fille dimanche dernier de 9 ans, super sharp. Elle me dit, pourquoi est-ce que je devrais croire en Jésus? Dis-moi pourquoi je devrais croire en Jésus. Puis là, j'ai commencé à faire mon argument apologétique. Tu sais. Elle dit, qu'est-ce qui me dit que la Bible est vraie? J'ai commencé à faire mon argument apologétique. J'ai dit, c'est vrai, il y a un élément historique. Tu sais, on a des preuves historiques. Elle n'est pas d'origine québécoise. Fait que je lui ai dit, ton grand-père s'appelait comment? Ton arrière-grand-père, Samir, je pense. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui dit que ton arrière-grand-père s'appelait Samir? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Mais non, il est mort. C'est tes parents qui t'ont dit ça? Mais ton arrière-grand-père s'appelle peut-être Martin, puis il vient peut-être du nord du Québec, tu ne sais pas. Tu ne l'as jamais rencontré. C'est une preuve historique. Donc, il y a une dimension qui est là. Mais quand j'arrive dans un passage comme celui-là, le texte est prophétique en plus. C'est 700 ans avant Jésus-Christ. Les manuscrits sont plus vieux, la datation des manuscrits sont plus vieux que la venue de Jésus. On n'était pas capable d'imaginer une histoire comme celle-là. Vous ne trouverez pas de religion sur la terre qui ont imaginé une histoire comme celle-là. Parce que c'est un miracle. Seul Dieu pouvait penser à une solution aussi extraordinaire que celle-là. Puis en regardant Christ sur la croix, les Juifs de l'époque voyaient quelqu'un qui était rejeté par Dieu parce qu'il devenait notre substitut. Dieu accomplit ce que personne d'autre ne pouvait accomplir. Il a réalisé la grâce pour nous tous. Il a accompli la grâce pour nous tous. Il a été notre substitut. Et au cœur de cette bonne nouvelle-là, on trouve l'idée de la substitution et celle de l'imputation. Des gros termes ce matin, mais précieux dans notre adoration, littéralement. Il a pris nos souffrances. C'est mon deuxième point. Jésus-Christ s'est substitué pour nous. Il a pris nos souffrances. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voyez-vous, Christ était horrible et glorieux. On lit à la fin du chapitre 52, « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, il le regarde sur la croix, il est défiguré, il est ensanglanté, il est abandonné de Dieu. » Il dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il le regarde et ils disent, « Mais Dieu l'a abandonné. » Ils ne savent pas que Dieu fait reposer sur lui les péchés de nous tous. Dieu ne l'a pas entièrement abandonné, mais Dieu l'a jugé coupable parce qu'il lui a imputer nos fautes. Il a pris nos fautes à notre place. Il s'est porté substitut pour prendre nos fautes à notre place et il s'est fait imputer nos fautes à notre place. Ray Ortland, un prédicateur que j'aime énormément, qui m'aide tellement à grandir dans la grâce, dit ceci, il dit, « Quand on pense à une croix avec un homme crucifié dessus, on ne pense pas naturellement à un objet d'adoration. Parce qu'un crucifié, ça a l'air d'un crucifié. Mais à celui qui saisit l'Évangile, celui qui était le plus horrible pendu au bois, le plus humilié des hommes, parce qu'il était sans péché, devient pour nous le plus grand sujet de joie. Parce qu'il était là à ma place et à la tienne si tu crois en lui. Quelle grâce extraordinaire qu'est l'Évangile. Fait que j'ai le goût de te dire ce matin, sens-toi coupable. Sens-toi coupable. Sens-toi très, très, très coupable. Ce matin, j'ai une mission que Dieu m'a donnée, c'est de te faire sentir coupable. On est une église comme ça ici, on aime que les gens se sentent coupables. Le pasteur est là pour me faire sentir coupable. Ben oui, parce que si je veux te prêcher l'Évangile, il faut que tu te sentes très, très, très coupable. Vraiment coupable. Je sais pas si vous aimez la peinture, ce n'est pas tout le monde qui apprécie les belles toiles. Rembrandt, un peintre classique. Rembrandt est un des peintres qui a fait le plus d'autoportraits. Donc, je vous montre son autoportrait, pas parce qu'il y a un message caché dans les pigments de ses yeux ou quelque chose comme ça, mais juste pour que vous voyez de quoi avait l'air Rembrandt, parce qu'il a fait plein d'autoportraits. Et lorsqu'il a décidé de peindre la crucifixion du Christ, il avait compris quelque chose, il avait compris que ses péchés à lui avaient contribué à ce que Christ soit sur la croix. Alors j'aimerais ça qu'on aille à la prochaine. Ici, vous avez Rembrandt. C'est vraiment intéressant, hein? Rembrandt s'est dépeint lui-même comme un des coupables qui élève la croix à la crucifixion du Christ. Parce qu'il avait compris que ses péchés avait amené Christ à la croix pour être pardonné. Ce matin, je te demande à toi, est-ce que toi, tu te vois ici? Moi, je me vois là. Je me vois là. Je sais que devant Dieu, je suis coupable. À mes propres yeux, comme l'apôtre Paul, je crois que je suis le plus coupable des hommes. Il n'y a pas de péché de gens sur la terre qui sont plus horribles à mes yeux que mes propres péchés. Dieu m'a accordé cette grâce-là de me sentir infiniment coupable devant Dieu parce qu'il m'a donné la mesure de sa sainteté et de mon état à moi. Et donc, si j'avais à peindre une toile, c'est mon visage qui serait là, ce ne serait pas celui de Rembrandt. Ce serait le mien qui serait là. Réalise combien tu es brisé, combien tu es coupable devant Dieu. Sans toi coupable. Puis j'aime ça comment Dieu apporte ça dans Ésaïe. Parce qu'il nous ouvre toutes les portes possibles pour comprendre à quel point dans notre nature profonde, on est des êtres brisés, mais brisés par le péché. Regardez verset 11, il dit, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités, de leurs péchés. » Comment est-ce que tu peux être déclaré juste devant Dieu? C'est s'il se charge de tes péchés, s'il prend sur lui tes fautes. Il a été enlevé au verset 8 par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Il n'a pas été frappé pour ses péchés, il a été frappé pour nos péchés. Ce que j'aime dans Ésaïe, c'est que Dieu nous donne plein de portes pour qu'on trouve cette grâce-là de se voir nous-mêmes coupables. Regardez le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Puis il va dire que l'Évangile, c'est quelque chose qui vient nous guérir. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu que Dieu prenne l'angle de la culpabilité et l'angle de la souffrance. Si tu as de la difficulté à te voir comme quelqu'un de profondément injuste, regarde la souffrance qui est occasionnée dans ta vie par ta simple stupidité. Par tes propres fautes morales, regarde tout le mal et la souffrance que tu as engendré dans ta vie puis autour de toi, dans ta famille, chez les gens que tu aimes. La vérité, c'est, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on pêche, on est à la fois coupable et victime. Je suis premièrement coupable devant Dieu, coupable devant d'autres personnes si je leur ai fait du mal, si ce n'est pas un péché privé, mais je suis aussi victime des conséquences de ça. Parce que ça brise l'âme, ça tue l'âme de péché. On n'a pas été créé pour faire le mal. On a été créé à l'image de Dieu pour faire le bien. Je disais tantôt, je choisis de croire toujours dans la noblesse de toutes les créatures de Dieu, de tous les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu. On n'a pas été créé pour pécher. Nous avons été créés pour faire ce qui est bien. Et quand nous péchons, nous faisons du mal à notre propre âme. Et donc, quand l'Évangile vient dans ta vie, non seulement ce substitut-là, Jésus-Christ, vient, prend ta place, prend tes péchés à ta place, mais il vient te donner une vie nouvelle. Il vient guérir cette âme flétrie-là par nos propres péchés. Certains d'entre nous qui sommes chrétiens depuis longtemps ont dit, « Ouais, mais c'est long, c'est beaucoup de travail, je ne suis plus qui j'étais, mais je ne suis pas encore qui je désire être en Jésus-Christ. » C'est vrai que c'est un long processus. Mais Dieu vient puis il restaure notre âme. Alors, sans toi coupable ce matin. Mais enfin, c'est toi gracié. Sans toi coupable, mais c'est toi gracié. Sache que tu es gracié si tu as cru en Jésus-Christ. Et sentir cette grâce-là, ça commence par ce savoir-là, savoir que Christ est mort sur la croix pour mes péchés et que vraiment j'ai obtenu grâce auprès de Dieu. Que ce que Christ a fait à la croix est totalement suffisant. Qu'il n'y a pas de péché dans ma vie qui serait plus grand, qui rendrait insuffisante la mort de Christ à la croix. Non, c'est simplement par la foi qui a cru à la bonne nouvelle qui nous était annoncée. Simplement par la foi, je vais saisir ça et je vais savoir dans mon âme profondément que je suis gracié, que Dieu m'a fait grâce, que Dieu m'a pardonné. Ray Ortland dit ceci, « Dieu accepte des gens inacceptables, il honore des gens peu honorables, il traite des stupides avec une dignité royale, alors que Jésus prend notre place à la croix et qu'il se charge de notre culpabilité. C'est ainsi que Dieu, notre juge, devient notre justicier. » Amen. C'est ainsi que Dieu, notre juge, devient notre justicier. Accepte la grâce, laisse aller ta culpabilité en arrêtant de défendre ta justice. Arrête d'essayer de négocier avec Dieu puis avec le monde autour de toi en essayant de dire « Non, non, je suis vraiment quelqu'un de bien. » Quand quelqu'un vient te voir puis dit « Écoute, tu as fait quelque chose de mal. » Arrête d'essayer de te justifier. Commence en disant « Ça ne me surprend pas. Je t'écoute. Ça se peut très bien. Tu fais dur. » Sans blague, ça fait longtemps que je sais. As-tu quelque chose d'autre à m'apprendre? Arrête d'essayer de te justifier. Laisse aller ta justice. Tu vas pouvoir laisser aller ta culpabilité parce que tu vas accepter la justice de Christ qui te libère de ta culpabilité. L'Évangile est tellement merveilleux, les amis, tellement extraordinaire. Et ce miracle-là est entier. Jésus ne nous offre pas un nouveau départ, mais il nous offre d'arriver à destination. Voyez-vous, le christianisme, ce n'est pas un processus par lequel Dieu vient, puis là, il dit, écoute, je sais que ça a été tough, je sais que tu fais dur, veux-tu, on va repartir à zéro. J'efface le passé, puis je prends des notes à partir d'ici. Non, non, j'oublie le passé, maintenant, fais mieux. Non, tu sais-tu quoi? Plus tu es jeune, puis tu acceptes l'Évangile, plus c'est réjouissant, parce qu'il te reste beaucoup d'années où tu vas pécher, je te le garantis. Je parle par expérience. J'ai accepté le Seigneur quand j'avais 19 ans. Et boy, si j'avais su toutes les stupidités que j'allais faire après. Dieu ne nous offre pas un nouveau départ. Il nous offre d'arriver à destination. Parce que lorsque je crois en lui, il me pardonne mes péchés passés, présents et futurs. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Et j'avance par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je serai, mais par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. Et je poursuis la sainteté en Jésus-Christ. J'essaie d'imiter mon Sauveur, Jésus-Christ. Dieu le Père a honoré et va honorer à jamais Dieu le Fils pour son sacrifice en lui donnant de sauver par sa substitution des millions d'hommes et de femmes à travers les siècles. Il a vaincu. Dans ce passage-là, Dieu lui dit... « Voici mon serviteur, au verset 13, prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. » Dieu va lui donner une postérité. Au verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité qui prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Depuis Christ, des millions et des millions et des millions d'hommes et de femmes ont arrêté d'essayer de se justifier devant Dieu et ont accepté la justice de Christ à la croix. Et notre mission à nous, c'est d'aller annoncer cet évangile-là. C'est d'aller annoncer ce miracle de la grâce. Ma famille en a besoin, ta famille en a besoin. Mes voisins, les tiens, nos collègues de travail, les Québécois en ont besoin. Les gens partout sur la terre ont besoin de cette grâce-là. Peut-être que toi, ce matin... tu as besoin d'être saisi par cette grâce-là. Peut-être que tu es arrivé ici en disant « Je cherche une religion qui va m'aider à mettre de l'ordre dans ma vie. » Mais ça commence par accepter que ta vie est un désordre total, puis tu as besoin que quelqu'un prenne ta place et prenne ta culpabilité, c'est Jésus-Christ à la croix. Tu as besoin de renoncer que tu vas pouvoir un jour te présenter devant Dieu en disant « Check, Seigneur, je suis rendu vraiment quelqu'un de bien. » Tu n'y arriveras pas à faire ça. C'est Christ qui a fait ça. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre justicier. C'est à travers lui qu'on expérimente la grâce en Jésus-Christ. On va aller dans un mot de prière, puis je vais demander au pasteur Miguel de venir me rejoindre à l'avant. On va prendre le repas du Seigneur ensemble ce matin. On fait ça une fois par mois. Et si à quelque part dans ton cœur, tu n'étais pas dans la joie de l'Évangile, reviens-y par le temps qu'on va prendre ensemble, prendre le repas du Seigneur. Ma question pour toi ce matin, c'est si tu avais à peindre cette toile que Rembrandt a peint, est-ce que toi, tu ferais partie du paysage? Est-ce que tu fais partie des coupables qui l'ont cloué à la croix par tes péchés? Si tu réponds oui, sache maintenant que tu es gracié. Entièrement, Dieu t'a fait grâce. Et ce n'est pas sur la base de tes performances. C'est sur la base de la performance de Jésus-Christ à la croix. Seulement, c'est lui ton substitut. Ta partie est déjà gagnée. Elle est déjà gagnée parce que c'est lui qui est en train de faire le match à ta place, puis il est gagné ce match-là. Puis apprends maintenant à te reposer dans cette grâce-là. Oui, pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Oui, pour grandir en sainteté. Mais pas en essayant de m'appuyer sur ma justice, en m'abandonnant à sa grâce. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour chaque personne qui écoute ce message. J'aimerais te prier pour chaque personne ici ce matin. Seigneur, ton évangile est merveilleux. Ta grâce est merveilleuse. Marcher sur les eaux ou ressusciter des morts, c'est absolument rien en comparaison de ce plan merveilleux conçu de toute éternité pour le salut des hommes, Seigneur. Qui aurait pu imaginer qu'un Dieu créateur, un Dieu juste et saint, s'offre lui-même comme substitut à notre place, accepte de recevoir nos péchés, notre culpabilité, afin que nous soyons pardonnés, que nous soyons guéris, Seigneur. Seigneur, toute ma vie, je vais chanter la gloire de l'Évangile et pour l'éternité. Toute ma vie, Seigneur, je vais célébrer la gloire de ta grâce et pour l'éternité, Seigneur. Conduis-nous dans ce temps avec le pasteur Miguel alors qu'on prend ensemble ce mémorial, Seigneur. Conduis-nous à entrer en nous-mêmes. Je te prie, Seigneur, que ton Esprit Saint nous visite ce matin. Viens nous visiter, Seigneur, et que cet Esprit que tu nous as donné à nous qui sommes chrétiens vienne réveiller notre âme, vienne rafraîchir, Seigneur, notre vision de ta gloire et de ta grâce, vienne renouveler en nous, Seigneur, un amour et une joie nouvelles pour toi, Seigneur. C'est dans le beau, puissant et glorieux nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.